Bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être à nouveau devant vous pour partager sur la suite de l'histoire de l'Église. Et ce matin, c'est vraiment une large période que nous allons partager, puisque c'est, vous le voyez à l'écran, donc c'est toute la période du Moyen-Âge qui va de l'an 500 jusqu'à environ 1500. Et puis, bien sûr, les temps de la Réforme avec des événements importants au XVIe, XVIIe siècle. Je voulais déjà vous remercier à chacun d'avoir mis à part cette journée. Je sais que vous vous êtes inscrits, que c'est quelque chose qui revient chaque mois, mais je voulais quand même vous féliciter d'être là pour ce moment de partage sur un sujet qui n'est pas évident. Et je voulais commencer par la prière, et pour qu'on puisse vraiment mettre de côté tout ce qui pourrait nous préoccuper. Et Seigneur, je te remercie pour ce temps de formation. Je veux te confier notre état d'esprit, afin que tu viennes éclairer par ton Saint-Esprit, que lorsque nous allons nous pencher sur cette histoire de l'Église et tous ceux qui nous ont précédés, avec leurs erreurs, avec leurs luttes, avec leurs réformes, aide-nous, Seigneur, à discerner ta main à l'œuvre à travers toute cette période. Et apprends-nous à être, nous aussi, des disciples fidèles, courageux, dans notre propre génération. Amen. Alors, pour vous mettre à l'aise, je voulais vous demander, pour commencer, quand on parle du Moyen-Âge, ça évoque quoi pour vous? Est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent comme ça à l'esprit quand on parle du Moyen-Âge et de la Réforme? Guerre, j'entends. Peste, oui, il y a eu la peste noire. Chevalier, servitude, oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres mots qui vous viennent à l'esprit quand on parle du... Domination, oui, on va voir que la société est très, très hiérarchisée, effectivement. Ce côté-là ne s'est pas exprimé.
Pauvreté.
Une période sombre. Et puis, encore peut-être. Servitude, ça a été déjà dit, mais oui, oui. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, la fin de la période de l'histoire de l'Église qu'on avait partagée, on s'était arrêté sur la fin du Moyen-Âge avec le Concile de Nicée. On avait parlé de Constantin. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu? C'est déjà loin, hein, c'était au mois de novembre. Et Constantin, lui, réunissait tous les pouvoirs, le pouvoir religieux, le pouvoir politique. Et donc, on va reprendre un petit peu en début de Moyen-Âge cette organisation pour voir à travers donc cette longue histoire du Moyen-Âge comment Dieu a réussi à bâtir son Église malgré cette période difficile, sombre, où il y a eu aussi la guerre de Cent Ans, voilà, la peste noire, toutes sortes de les croisades, toutes sortes d'événements qui auraient pu anéantir totalement l'Église de Jésus-Christ. Mais on va voir que je vous ai mis en premier passage sur l'écran. Voilà, un verset de Matthieu: « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et donc cette histoire de l'Église, l'objectif ce n'est pas de faire une chronologie avec des événements, des dates, voilà, qui vont se succéder, ce serait trop lourd pour nous, mais c'est vraiment à travers cette période de chercher. Donc je vous encourage, à travers ce que je vais partager, de noter à chaque fois les éléments qui montrent la trace de la fidélité de Dieu à travers ces deux périodes très longues, du Moyen-Âge et de la Réforme. J'avais noté aussi le passage d'Hébreux 12.1. Donc je pense que vous avez vos Bibles. 12.1 qui dit: « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Donc l'objectif de cette matinée, de ce début d'après-midi, c'est vraiment de comprendre comment Dieu a préservé son Église, comment les dérives que l'on va évoquer ont conduit à un besoin vital de réforme. Enseigner l'histoire de l'Église pour une formation de disciples, ce n'est donc pas une affaire de date, même si je vous ai préparé une chronologie pour que vous puissiez vous y retrouver. C'est donc comprendre comment Dieu, à travers les siècles, à travers les erreurs et des succès, parce qu'on va voir qu'il y a aussi des succès, nos ancêtres donc ont cheminé dans la foi. Donc, nous entrons de plein pied dans ce début du Moyen-Âge, et au début du Moyen-Âge, on remarque qu'il y a ce mélange des pouvoirs qu'on retrouvait à la fin de l'histoire de l'Église primitive. Voilà, je reviens un tout petit peu en arrière parce que j'en vois certains qui feuillettent leurs documents. Donc, je vous ai préparé et je vous encourage à avoir sous les yeux, même si je ne lirai pas tout, si je ne commenterai pas tout ce que je vous ai donné plus pour ceux que ça intéresse, mais vous avez dans le dernier petit feuillet, c'est-à-dire des pages 62 à 69, le dernier petit paquet, vous avez, donc vous pouvez ça le garder sous les yeux pendant l'enseignement, une chronologie des trois grandes périodes, on pourrait dire, avec donc le Moyen-Âge, et puis on va voir apparaître des précurseurs, c'est-à-dire des personnes qui en Europe vont s'insurger contre certains abus, certaines choses qu'ils voient dans l'Église. On les a appelés les précurseurs, donc j'en citerai quelques-uns. Et puis on parlera vraiment de la réforme protestante. Vous avez ensuite quelques mots de vocabulaire donc, que j'ai notés sous forme de lexique. Et puis un résumé, ça ne sera pas utile parce que je vais les présenter plus longuement, les réformateurs. Et on terminera cet après-midi avec un quiz sur l'histoire du Moyen-Âge jusqu'aux réformes. Et voilà, il y a la correction qui est sur une feuille un petit peu plus loin, donc ne regardez pas, ce sera pour vous. Voilà, vous avez déjà la correction qui est dans vos documents. Et puis on terminera par des questionnements sur l'histoire de l'Église aujourd'hui. Et donc, comme Mélanie l'a dit, je vous ai prévu aussi des petites surprises entre-temps. Donc on revient à ce début du Moyen-Âge, où l'on remarque un mélange des pouvoirs. Le pouvoir de l'Église, le pouvoir politique sont imbriqués et on a perdu vraiment la simplicité de l'Évangile et on voit de plus en plus l'Église qui s'allie au pouvoir politique, qui s'allie au roi, aux empereurs. Et l'État a même commencé à faire cela, à imposer la foi par la force. Je vous ai cité deux exemples, j'ai pris deux exemples, où l'on voit l'empereur Justinien qui va rendre obligatoire le baptême des enfants et qui va persécuter donc tous ceux qui ne pensent pas comme l'Église dite officielle de l'époque. Et puis le deuxième exemple, c'est celui de Clovis et Charlemagne un petit peu plus loin. Clovis, lui, c'était un roi franc, un roi d'un peuple barbare, puisque l'Empire romain chute en 476 et donc il y a toute une série de peuples qui vont envahir l'Occident, qui vont chercher à s'installer avec leurs coutumes, leurs pratiques. Et ce roi franc, Clovis, lui, il va se convertir et entraîner tout son peuple dans sa conversion, mais on constate que ce christianisme est plutôt superficiel. Donc Charlemagne, lui, il va imposer aussi le baptême par l'épée à un peuple qui s'appelle les Saxons. Et il va confondre évangélisation et conquête militaire. Donc on voit à travers ces deux exemples déjà, au début du Moyen-Âge, que l'évangile n'est plus l'évangile qu'on a vu dans l'Église primitive tout au début. Et je vous ai cité donc tout en haut de la page 2 un extrait d'un texte, d'un capitulaire de Charlemagne, qui dit « Tout Saxon non baptisé qui refusera de se faire administrer le baptême, voulant rester païen, sera mis à mort. Tous les enfants devront être baptisés dans l'année. » Donc voilà, ça c'était une loi que Charlemagne a fait paraître. Donc on voit bien le pouvoir politique qui s'imbrique dans la vie de l'Église et ça commence à déraper. Donc je vous ai mis des petits cœurs avec des petits rappels, voilà que, par exemple, la véritable foi, elle ne s'impose pas par la force. C'est une décision libre de cœur de répondre à l'amour de Dieu. Pendant toute cette période, et justement pour fuir tous ces excès, tous ces abus de la politique et de l'Église de l'époque, beaucoup de personnes vont fuir l'Église et vont s'installer dans des monastères. C'est le début du monachisme. Alors, le monachisme, c'est simplement donc le développement de vie dans des endroits isolés. Mais ces endroits isolés, donc la parole de Dieu, elle nous en parle, puisqu'elle nous dit que Jean en a parlé à ses disciples. Il disait notamment dans Jean 17, 15, 16, « Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes de tout mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Donc on voit à travers la parole de Dieu que tout de suite l'objectif ce n'était pas de s'isoler, de mener une vie d'ermite dans ce monde, mais certains chrétiens s'installent quand même à l'écart dans des monastères et vont s'écarter du modèle de vie du Seigneur. Mais on peut retenir que cette vie dans les monastères, elle a rendu service parce que ces moines, ils n'ont pas été inactifs pour Dieu, puisqu'ils ont transcrit les manuscrits bibliques. Alors on va voir, donc je vous ai mis quelques photos là, où l'on voit à travers l'Europe l'apparition d'endroits qu'on appelle des scriptoriums, donc qui vont se multiplier. On sait qu'il y en avait plus de 500 en France, et dans certains monastères, il y avait parfois plus de 500 moines, qu'on appelait des moines copistes, qui recopiaient donc des passages entiers de la parole de Dieu. Et donc tous ces monastères en France, ils vont se transformer, ils vont devenir des sortes d'ateliers pour copistes. Par exemple, à Saint-Martin-de-Tours, il y avait un monastère avec 200 moines. Ce travail de copiage était souvent un lieu particulier qu'on appelait le scriptorium. Vous avez deux photos dans votre fond de cours là, qui le montrent. On voit deux moines qui sont sur des sortes de bureaux avec on appelle ça un lutrin, c'est-à-dire qu'ils s'appuyaient sur une sorte de pupitre incliné pour recopier des textes de la Bible. Et il y avait donc une personne qui dictait très lentement les Écritures pendant tout ce temps. Et des Bibles complètes ont été donc recopiées. On les appelait des pandectes. Et à cette époque-là, c'est Charlemagne qui a développé une forme d'écriture qui était plus simple, qui s'appelait la minuscule Caroline. Donc qui a été mise au point et qui a pu être utilisée par ces moines pour recopier la Bible. Donc d'une certaine façon, le point positif de Charlemagne, c'est qu'il donna vraiment une impulsion, un élan aux études bibliques, telles que la Bible va passer des mains des clercs, du clergé, aux mains des laïcs. Donc ça va permettre la diffusion de la Bible. Donc la copie des Écritures, encouragée par Charlemagne, va se propager pendant tout le Moyen-Âge, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, comme en Italie, en Flandre, en Allemagne. Là, je vous ai mis une photo qui montre le développement des monastères un peu particuliers en Grèce, avec les météores. Donc c'est un groupe de 20 monastères dans la partie nord de l'Europe, où les moines se retrouvaient. Donc là, ils s'isolaient vraiment parce que je crois que pour certains, c'était des pitons de grès, donc il fallait escalader par un système de cordes pour atteindre l'endroit. Donc ils étaient vraiment, vraiment isolés. Donc à cette époque, le clergé est divisé. Il y a toute une organisation qui existe. Je vais aller assez vite sur ça parce que ça nous intéresse un petit peu moins. C'est le clergé catholique était divisé en clergé séculier et régulier. Séculier, ça veut dire ceux qui vivent dans le siècle, c'est-à-dire ceux qui étaient au milieu, donc qui vivaient dans la société. Et ce clergé était dirigé par le pape, on l'a déjà vu à la fin de l'histoire de l'Église précédente. Il y avait donc les évêques, toute une hiérarchie, avec des archevêques, etc., des cardinaux. Et puis de l'autre côté, donc il y avait ce clergé régulier, ceux qui obéissaient à une règle de vie. Ce sont donc des religieux qui vivent dans un monastère. Ce monastère, il était dirigé par un abbé. Il y avait aussi des monastères pour les femmes, dirigés par une abbesse. Et ces monastères, donc, vont se diversifier. Il va y avoir toutes sortes d'organisations, d'ordres différents. Alors j'en ai sélectionné quelques-uns pour vous montrer un petit peu ce qu'ils vivaient, et notamment les bénédictins, par exemple. Alors, il me semblait que j'avais... Voilà, les bénédictins, vous avez sur votre fond de cours donc quelques photos qui vous montrent un petit peu à quoi ressemblaient ces abbayes, ces monastères au Moyen-Âge. Tout d'abord, l'ordre des bénédictins, qui est souvent le plus connu, qu'on appelait aussi les moines noirs. Donc, ils obéissent à la règle de Saint-Benoît, qui a fondé donc un monastère près de Naples, près du Mont Cassin. Et cette règle était très stricte parce qu'ils devaient vraiment répondre à 3 vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Donc cette règle était très sévère. Mais malgré cela, voilà, les monastères, pour la plupart, ont repris cette règle de Saint-Benoît. Un autre ordre qui est aussi connu, ce sont les cisterciens, qu'on appelait aussi bernardins, fondé par Robert de Molène. Et cette abbaye se trouve assez proche de Nouissy, en Bourgogne, donc à Citeaux. Un des plus célèbres de ces moines s'appelait Bernard de Clairvaux. On le surnommait Bouche de Miel. Mais voilà, la suite, c'est qu'il prêcha la deuxième croisade et il fut un persécuteur acharné des cathares et des vaudois. Il fut même le conseiller de plusieurs papes. Donc il a joué un rôle un peu des deux côtés, voilà, du côté du développement des monastères, mais en même temps voilà, à persécuter certains mouvements dont nous parlerons après. Mais c'est surtout à cette époque, tout à l'heure personne ne l'a cité, mais au Moyen-Âge apparaissent justement les mouvements, les hôpitaux, les associations pour les aides aux plus pauvres, parce que la société est vraiment dans une grande pauvreté, il y a la peste noire, donc il y a vraiment des situations compliquées, et on voit apparaître à cette époque-là les ordres mendiants. Et je pense que tout le monde a déjà entendu parler de François d'Assise. François d'Assise, donc, il a vécu à cette période-là et il prenait justement, lui, un retour à une vie simple. Et l'idéal pour lui de vie, c'est donc il a tout abandonné pour servir les pauvres. Il prêchait l'amour de Dieu. Donc ces mouvements, d'un certain côté, ont apporté du bien, mais ils ont souvent fini par être absorbés, par être réintégrés dans l'institution catholique. Et du coup, ils ont perdu leur force dans la réforme. Dans les changements. Alors là, je vais faire une petite pause avant de parler d'autres ordres pour nous interpeller un petit peu, parce qu'on voit que ces moines, ils ont donc passé pratiquement toute leur vie, pour certains, à recopier la Bible. Et puis, ils ne recopiaient pas la Bible dans un endroit, je dirais, ouvert, etc. Ils étaient dans l'ombre. Et puis, j'ai envie de nous poser la question à nous aujourd'hui, dans notre monde ultra rapide, en 2026, comment pouvons-nous préserver la parole de Dieu ? Est-ce que nous pouvons préserver la parole de Dieu pour la génération suivante ? Parce que d'une certaine façon, c'est ce qu'ils ont fait, ces moines. Ils ont préservé, malgré les écueils. Si vous avez vu le film, qui est ancien, Le Nom de la Rose, ça vous dit quelque chose pour les gens de ma génération ? Donc ça se passe dans un monastère et on voit déjà l'Inquisition qui apparaît, on voit les écueils, on voit les moines copistes au travail, voilà, très stricts, voilà, il ne fallait pas qu'il y ait un bruit pendant le recopiage des textes, donc ça apporte pas mal d'informations sur cette période-là. Mais je repose ma question du coup. Donc aujourd'hui, comment pouvons-nous préserver la parole de Dieu ? Donc je n'attends pas forcément une réponse instantanée, mais voilà, vous pouvez aussi y réfléchir, noter la question, comment pouvons-nous préserver la parole de Dieu pour la génération suivante ? Est-ce que, voilà, quelqu'un veut prendre la parole ? Alors, par les réseaux sociaux, en parlant de la Bible sur les réseaux sociaux. J'attire justement notre attention sur le fait que les moines restaient vraiment silencieux pendant qu'ils recopiaient. Et on est vraiment, nous, dans un monde où c'est le contraire, hein, où on est dans le bruit, où on est dans la succession des événements ultra rapidement, et on peut se dire que vraiment pour nous, d'essayer de préserver la parole de Dieu, ce serait de pouvoir faire quoi ? Voilà, de prendre du temps dans le silence pour mémoriser la parole de Dieu. On va voir qu'il y a des mouvements de l'époque qui ont mémorisé des passages entiers, voire le Nouveau Testament en entier qu'ils connaissaient par cœur, hein, pour le transmettre. Ils étaient persécutés. Nous ne sommes pas, on peut dire, persécutés pour le moment, hein, en France. Donc, lutter un peu contre l'immédiateté, contre le bruit. Et on peut dire que les moines, ils ne faisaient pas que copier, parce que ils vivaient la règle, hein, ils vivaient la règle de vie qu'ils s'étaient dictée. Mais en 2026, on pourrait se demander, ben, qui est-ce qui va lire la Bible ? C'est peut-être la Bible qui lira nos vies, voilà. Et nous sommes appelés à être des lettres vivantes. Donc c'est aussi cela que nous devons transmettre en 2026 par notre vie, nos comportements, devenir une épître vivante et la parole qui est préservée, qui est traduite en actes concrets dans notre service, dans notre, là où nous sommes, sur notre lieu de travail. On a vu que les moines, ils avaient des scriptoriums. Mais nous, aujourd'hui, qu'avons-nous pour transmettre la Bible, la parole de Dieu? Voilà, n'hésitez pas, parce que je sais qu'il y en a qui ont des réponses, là, allez-y. Rebecca.
Est-ce que j'ai dit des imprimantes?
Des imprimantes, plus que ça. Qu'est-ce que nos étudiants, enfin mes collégiens, moi je suis enseignante en collège, ils n'utilisent pas beaucoup sauf quand je leur donne un travail à faire chez eux. Ils utilisent l'IA. Voilà, l'intelligence artificielle. Alors on est dans un monde où l'intelligence artificielle entre partout et on peut se demander si par rapport à l'utilisation de la parole, est-ce que ça doit nous effrayer ou est-ce que c'est quelque chose que l'on peut utiliser pour bien utiliser ? Dans tous les projets, on peut bien utiliser ou vraiment déraper. Donc l'IA, pour ceux qui connaissent la réalité augmentée ou certains nouveaux médias, ça peut rendre vraiment le récit biblique vivant, immersif, et ça peut permettre à des générations qui sont un petit peu centrées sur l'image de transmettre ces choses-là. Alors, on va revenir à nos ordres monastiques et je vais en citer encore quelques-uns avant d'avancer. Donc, un autre exemple, les franciscains. Les franciscains, c'était un ordre appelé mineur, donc ils étaient tous classés, etc. Et François d'Assise était à la tête de cet ordre et il ne devait posséder, donc c'était un rudiment, qu'une robe brune et leurs cordes. Ils devaient mendier leur nourriture. C'était leur mode de vie, ils étaient appelés à vivre comme cela. Et François d'Assise lui-même, une grande partie de son activité était consacrée à la prédication. Mais c'est malheureusement, ces franciscains, ils vont participer parfois aux persécutions, et à d'autres moments, ils seront persécutés eux-mêmes par la papauté. Donc vous voyez, c'est une période compliquée où voilà, on veut préserver certaines choses, mais en restant dans l'Église catholique, finalement, ça va se retourner contre eux-mêmes. C'est à cette époque que les ordres de la chevalerie apparaissent. Donc c'est l'époque des croisades, avec par exemple l'ordre des Templiers, qui a été créé justement pour protéger ceux qui partaient faire ces longs périples à Jérusalem. Il devait donc surveiller, garder les lieux. Et finalement, cet ordre, on s'aperçoit qu'il s'est enrichi et que il va même, ces personnes vont devenir les banquiers, vont devenir ceux qui servent les rois de France. Et finalement, cet ordre du Temple sera supprimé par un pape qui s'appelait Clément V. Et les Templiers vont être conduits au bûcher. Donc, à chaque fois, on verra que ces ordres, voilà, finissaient souvent persécutés eux-mêmes par l'Église catholique. Juste citer d'autres organisations qui apparaissent au Moyen-Âge et qui viennent vraiment en aide aux populations. On les appelle des associations libres, notamment les béguinages. Alors c'est un drôle de nom. Vous avez des photos en haut de la page 5, qui vous montre le béguinage à Louvain, où j'ai eu l'occasion d'y aller quand un des fistons faisait un stage en Belgique. Et vraiment, ce sont des quartiers entiers dans la ville où les personnes vraiment accueillaient les personnes les plus démunies comme des sortes d'hôpitaux aménagés pour recueillir, soigner les infirmes, abriter parfois même des croyants qui fuyaient les persécutions de la papauté. Donc on voit ça aussi en France, mais voilà, les photos que vous avez, ce sont des photos de béguinage qui existent à Bruges et Louvain. Pendant cette période, on voit donc la papauté qui va prendre un rôle de plus en plus important et donc des déviances au niveau des doctrines qui apparaissent. Là, je vais passer assez vite, mais j'ai pris quelques exemples très précis parce qu'on voit donc l'évêque de Rome, qui était autrefois un évêque parmi les évêques, va devenir de plus en plus important, de plus en plus important pendant ce début du Moyen-Âge. Au lieu d'être un simple berger, il devient, d'après ce qu'ils disent les catholiques, le vicaire de Christ sur terre. Et il revendique une autorité absolue. Je vous donne un exemple. Grégoire le Grand, donc un pape de l'époque, bien qu'humble au départ, il va renforcer toute la hiérarchie de l'Église catholique. Il va introduire toutes sortes de façons de penser, des dogmes qui ne sont pas du tout bibliques. Par exemple, le culte des images, l'histoire du purgatoire, le fait que, voilà, on est en attente d'obtenir un salut parfait. Voilà, il faut, on verra un petit peu plus loin, payer des sommes d'argent pour obtenir le salut. L'idée que le pape aussi est infaillible, qu'il ne se trompe pas. Voilà, ce sont des idées qui rentrent dans l'Église catholique et qui deviennent tellement fortes qu'elles deviennent des dogmes sur lesquels l'Église catholique va s'appuyer. Ce qui choque surtout les gens de l'époque, c'est que la papauté et la cour avaient la réputation de vivre vraiment une vie de désordre, d'immoralité. Ces personnes étaient sous la coupe de grandes familles romaines et ces familles étaient corrompues. Alors j'ai cité toute une série de déviances, les scandales, l'idolâtrie, l'incrédulité, l'amour des richesses, etc. Et tout cela, voilà, c'est vraiment quelque chose que la population du Moyen-Âge voit, et c'est vraiment affligeant. Donc le peuple voit cet exemple affligeant et indigne, et tout le monde le voit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de triste pour cette période du Moyen-Âge. Et j'ai choisi un exemple, j'aurais pu en citer au moins 20, d'exemples de papes qui menaient une vie à l'opposé de l'exemple biblique. À son avènement, c'était donc un jeune garçon, ce pape Jean XII, et pendant son pontificat, il a été accusé, écoutez bien, d'adultère, d'inceste, de sacrilège. Il buvait à la santé du diable et on disait qu'il invoquait les dieux païens. Donc il était pape. Hein, voilà. Donc j'ai rajouté, toute autorité humaine dans l'Église doit rester soumise à l'autorité de la Bible, mais on va voir que voilà, c'est un des dérapages de l'Église catholique qui va garder la tradition des hommes en même temps que la parole de Dieu. Et donc il y a des choses qui rentrent, qui ne sont pas bibliques, mais qu'elle va rajouter, comme le culte à Marie, etc., et qui deviennent donc très importants pour eux. Pour continuer avec ces divisions, ces déviances, eh bien, en 1054, on avance dans le Moyen-Âge, l'Église catholique va se séparer, va se briser en deux. On appelle ça le grand schisme. C'est donc, ça veut dire division, tout simplement. Et l'Église catholique va se séparer de l'Église orthodoxe d'Orient, pour différentes raisons, pour des raisons de personnes, des querelles de personnes, mais aussi parce qu'ils se disputaient l'autorité, voilà, entre l'Orient et l'Occident. Donc toutes ces divisions, toutes ces querelles vont finalement ne faire qu'affaiblir le témoignage chrétien et vont donc montrer une vision quand même pauvre et orgueilleuse de ce corps du Christ de l'époque. Je vais passer assez vite sur les croisades, même si voilà, je m'attends à ce qu'il y ait peut-être des questions à la fin, mais franchement, les croisades, moi j'en parle, ça fait partie du programme de collège. Et voilà, ce qu'on enseigne dans l'éducation nationale et ce que je partage ce matin, ça n'a rien à voir, déjà, je tiens à le dire. Et finalement, les croisades, c'était des expéditions militaire et religieuse, comme si les deux mots pouvaient aller ensemble déjà. Et donc entre le XIe siècle et le XIIIe, l'Europe va lancer des expéditions militaires. Il y en a eu 8 en tout. Et l'objectif, c'était de reprendre la ville de Jérusalem aux musulmans qui occupaient la région. Alors, je ne vais pas vous développer les 8 croisades en détail, parce que dans l'école biblique avec Jean-Marie, voilà, il nous avait bien expliqué tout ça, mais moi, je veux vraiment centrer sur la formation de disciples et vous montrer que, voilà, déjà la première croisade, elle commence en 1095, et qui est-ce qui appelle à la croisade ? Eh bien, c'est le pape de l'époque. Il s'appelait Urbain II. Et il va, lui, appeler à la croisade ce qu'il appelait la voie de la croix ou voyage de Jérusalem. Il promettait à toute personne, à tout chevalier qui partait en croisade, il leur promettait le pardon des péchés. Par le fait d'aller en croisade, déjà. Il proclamait fortement « Engagez-vous donc sur cette voie pour le pardon de vos péchés, sûr de la gloire incorruptible du royaume des cieux. » Et la réponse des chevaliers de l'époque qui suivaient, voilà, qui suivaient l'Église, qui suivaient la papauté, ça a été « Dieu le veut ». Dieu, ils pensaient que Dieu voulait qu'ils partent en croisade. Donc on a peu de témoignages de chrétiens qui se sont opposés pendant cette période à ce grand bouillonnement vers Jérusalem. Donc on promettait le pardon idéal, le pardon total des péchés à ceux qui mouraient au combat aussi. Le résultat de ces croisades, c'est vraiment que le royaume de Dieu, il a laissé aujourd'hui encore, on le voit à Jérusalem, des cicatrices profondes entre les différentes, entre les chrétiens, entre les juifs, entre les musulmans. Tous ces mouvements voilà, qui n'étaient pas du tout bibliques, des croisades, qui allaient assassiner d'autres chrétiens, qui allaient s'implanter, voilà, ravager des territoires, ça n'était pas à l'honneur du Christ. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, il ne se propage pas par les armes, mais par l'esprit de paix. Et j'avais voilà, une nouvelle petite pause pour nous, pour parler des croisades, et je voulais vous poser une question par rapport à vous, disciples, aujourd'hui, et par rapport à ces événements des croisades. Si vous aviez été présent, comment auriez-vous discerné cet appel à la croisade, à la lumière des enseignements de Jésus sur l'amour des ennemis ? Hein ? Si vous aviez été présent, comment auriez-vous discerné ? Voilà, oui, Linda ? Oui. Oui, parce que effectivement, la majorité des gens de l'époque ne lisaient pas, ne savaient pas lire, n'avaient pas la traduction de la Bible. Donc ceux qui détenaient la Bible, on l'a dit, c'était les seuls qui savaient lire et écrire, c'était souvent les moines ou des gens lettrés de l'époque, on va voir, mais il y avait très peu de personnes. Oui. Une autre question pour nous faire réfléchir. Les croisades ont souvent donc confondu les intérêts politiques avec la volonté de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce même type de croisade ? Est-ce qu'on ne vit pas ? Est-ce que vous n'avez pas en pensée comme ça des exemples de croisades modernes dans lesquelles nous risquons de nous enrôler pour Dieu, mais que Dieu ne nous demande pas ? Est-ce que vous avez en pensée certaines choses ? Donc nous avons la parole de Dieu, mais nous avons aussi le Saint-Esprit qui nous dit, qui va donner sa paix, qui va attester, voilà, si cette pensée vient de Dieu. Donc on a des moyens, nous, de pouvoir lutter, on pourrait dire, par rapport à ces tentations de croisade, d'aller à fond dans une direction sans se poser la question si Dieu le veut vraiment, si c'est vraiment le bon combat, si c'est là que Dieu nous veut. Mais vous voyez qu'il peut y avoir facilement aujourd'hui des dérives aussi, comme au Moyen-Âge. Hein, finalement, on le sait, quand je regardais, je relisais tout cela, je me disais, ben finalement, les déviations, elles reviennent, sous une autre forme, mais elles reviennent dans l'histoire. Donc à nous d'être attentifs. Ça ressemble plus à des croisades qu'à autre chose, oui. On verra au moment de la réforme aussi que voilà, il y a eu de bonnes choses, puis il y a eu des dérives aussi avec des pogroms à l'égard de juifs, etc., que ça a dérivé aussi. À votre avis, quel impact les croisades ont-elles aujourd'hui sur le témoignage chrétien auprès de populations non chrétiennes? C'est une évidence hein, quand on voit comme, les choses comme ça, mais en tant que disciple, comment porter un message de grâce par rapport à tout cela en assumant les erreurs de notre histoire? Parce qu'il faut quand même reconnaître. Parce que parfois on se dit, bah oui, c'était bien, ils allaient reprendre un territoire, voilà. Quand j'explique ça aux élèves, ils ne voient pas où est le problème, mais c'est sûr que la façon de présenter les choses suivant notre foi n'est pas la même. Donc je vous propose voilà, de bien noter ces réflexions pour les garder, pour pouvoir les creuser un petit peu vous personnellement. Et nous allons avancer, continuer d'avancer. Et je vais vous parler de croisades encore, mais pas de la même forme. C'est-à-dire que les papes vont aussi se lancer dans des mouvements de croisades en France pour stopper certains mouvements comme les cathares. Et ils vont lancer une croisade qu'on a appelée la croisade des Albigeois, donc contre les habitants de la ville d'Albi. Et c'est le pape qui va lancer une bulle, c'est-à-dire une sorte de loi, d'ordre, qui va réveiller, ameuter l'Europe tout entière. Et il va lancer 5 croisades consécutives contre les cathares. Il va choisir des représentants parmi les moines pour essayer de ramener ces mouvements vers le catholicisme. L'objectif, c'était de ramener à chaque fois ceux qui s'étaient soi-disant égarés vers le catholicisme. Donc le mot cathare, ça veut dire, ça vient du grec katharos, ça veut dire pur, sans mélange. Ce mouvement est apparu vers l'an 1000. Il s'est surtout développé dans le sud-ouest de la France, face à la corruption du clergé catholique, qui a vraiment attiré le mépris de l'Église romaine, envers l'Église romaine. Ces cathares, ils voulaient revenir vraiment à l'évangile simple, aux écritures, et ils refusaient l'Église catholique, ses cérémonies. Ils rejetaient tout ce qui était rite, hiérarchie, les signes de croix, l'idolâtrie. Donc ils s'opposaient à tout cela, au sacrement du purgatoire, à la messe, à la transsubstantiation. Donc là, vous avez le mot qui est expliqué dans le vocabulaire. La prière aux morts, etc. Donc là, j'en ai cité quelques-uns, mais voilà, beaucoup de choses qui étaient considérées comme des choses, des dogmes dans l'Église catholique, et le mouvement cathare va donc offrir un culte de grande simplicité. Ils se réunissaient, ces cathares, souvent dans des maisons particulières. Il n'y avait jamais de bâtiment, d'église, de construit spécifiquement. Et ils lisaient le Nouveau Testament en langue vulgaire, c'est-à-dire dans leur patois, dans leur langue, là où ils étaient. Ils aimaient lire l'Évangile et le Notre Père. Donc on peut supposer, comme à cette époque-là, effectivement, peu savaient lire, il y avait donc des personnes qui lisaient dans les maisons aux autres, dans des extraits de la parole de Dieu. Et parmi ces personnes, il y avait donc des frères qu'on appelait on les surnommait les parfaits ou bons hommes. Et ils étaient vraiment mis à part pour la direction, la prédication, et ils participaient aussi beaucoup à l'activité missionnaire. Je vous ai mis un extrait d'un livre sur le christianisme des bons hommes qui dit « Toléré et protégé par les pouvoirs publics, l'Église des bons chrétiens était publique et autorisée. » Donc au début, on voit que ce mouvement-là n'est pas persécuté parce qu'ils voient leur mode de vie qui est juste, qui est bon. Mais finalement, ce mouvement qui était fait par des personnes qu'on appelait parfaits s'intégrait vraiment dans la société du Moyen-Âge. Ils n'étaient quand même pas coupés du monde comme ceux qui vivaient dans les monastères. Et comme ils voyageaient, comme ils circulaient, eh bien, ils rendaient un témoignage puissant, ces cathares. Leur devise était aussi celle des Vaudois, la lumière luit dans les ténèbres. Ces croisades vont se terminer dans le sang parce qu'en 1209, un représentant du pape qui s'appelait Arnaud Amaury aurait lancé cette parole célèbre. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Trahison, tromperie, calomnie, dénigrement, dénonciation, tout servait à les traquer, à éliminer les soi-disant hérétiques. Et officiellement, cette croisade, donc des albigeois, elle va s'achever en 1229 avec le Concile de Toulouse qui va mettre en place l'Inquisition. Et l'Inquisition, ça a donc été mis en place par l'Église catholique pour éliminer tout ce qui était soi-disant des hérésies de la part de ces mouvements, on va voir, purs, qui revenaient aux évangiles. Et donc l'objectif, c'était de détruire le catharisme. Vous avez des images à la fois qui concernent la croisade des albigeois et les cathares, qui vous montrent que pendant les 50 premières années du XIIIe siècle, environ, ces chiffres sont impressionnants, un million de personnes, essentiellement des cathares et des vaudois, vont périr dans les provinces du sud de la France. Alors bien sûr, de nombreux cathares vont s'enfuir, vont se réfugier dans les forêts, dans les montagnes, les cavernes, et des centaines de milliers vont essayer d'aller dans les pays voisins, notamment en Italie, dans les Balkans. Mais pourtant, on sait, d'après des témoignages, qu'on a retrouvé jusqu'au XIVe siècle des assemblées cathares qui étaient dans des vallées reculées, qui étaient un petit peu perdues, cachées, mais ils ont survécu. Donc on va continuer d'avancer avec les vaudois et les mouvements de réveil. Alors malheureusement, il m'aurait fallu au moins 3 heures supplémentaires pour parler de tous ces mouvements qui sont magnifiques. Voilà, on peut se dire que ce sont, voilà, si on regarde comme ça de loin, que ce sont, si on regarde dans des encyclopédies ou d'autres, ce sont des hérésies, hein, pour les catholiques. Mais voilà, je vais vous présenter quelques-uns de ces mouvements qui, au milieu de ces périodes de ténèbres, Dieu a toujours un reste fidèle, a toujours des assemblées qui lui sont restées fidèles. Et l'histoire de ces églises bibliques a été sauvegardée. C'est ça qui est bien pour nous aujourd'hui. Et grâce à de très nombreux témoignages, des documents, malgré la violence des persécutions, on sait que ces mouvements ont survécu, ont existé, ont magnifiquement témoigné de la beauté de l'Évangile. Je vous en cite quelques-uns, évidemment, très rapidement. Donc, dans le sud de la Grande-Bretagne, le mouvement des Culdéens, vers l'an 300, Nignan, en Écosse, donc vous voyez, dans toute l'Europe, en Irlande, en Écosse, Colomban, je pense que vous avez entendu parler de Patrick aussi, en Irlande. Donc vous avez les siècles, les années indiquées entre parenthèses. Et je veux juste un tout petit peu développer quelques-uns, notamment Colomban. C'est l'un des missionnaires irlandais qui est parmi les plus célèbres. Il s'installa en Haute-Saône, tout près d'ici, avec une équipe apostolique, environ à 15 km de Luxeuil-les-Bains. Et puis, comme on est proche de la Suisse, il y avait aussi Gall, un apôtre de la Suisse qui construisit lui un ermitage qui devint plus tard une célèbre abbaye sous l'appellation de monastère de Saint-Gall, qui pendant des siècles fut un des grands centres de culture de toute l'Europe et qui donna naissance à la ville de Saint-Gall. Un peu moins connu, le mouvement des Nestoriens, qu'on a appelé aussi les Chaldéens, avec à sa tête quelqu'un qui s'appelait Nestorius et qui était évêque de Constantinople. Lui, il a vraiment permis l'expansion de l'évangile, du christianisme, jusqu'en Chine, mais en passant par la Perse, la Mésopotamie. Il y a de magnifiques témoignages qui parlent de ces hommes de foi qui étaient d'un grand dynamisme et qui connaissaient d'une façon approfondie les Saintes Écritures. Certains historiens, justement, connaissaient par cœur tout le Nouveau Testament. Et puis on a d'autres mouvements. Donc là, je ne vais pas développer forcément tous, les Pauliciens, les Bogoumils, qu'on surnommait les Amis de Dieu, en Bulgarie. Et puis quelques serviteurs de Dieu, peut-être vous avez entendu parler, ce sont peut-être des restes du collège, Cyril et Méthode, qui ont inventé, eux, une façon, une forme d'alphabet, qui aujourd'hui descend encore de cette écriture qu'ils ont, l'alphabet cyrillique descend de cette de ce qu'ils ont réussi à mettre au point, ces deux frères qui étaient surnommés les apôtres des Slaves. Alors, ce qui est aussi étonnant, c'est que à l'intérieur même du catholicisme, on voit apparaître des mouvements qui sont de toute beauté parce qu'ils sont proches de l'évangile pur. Et donc, ces églises, ces mouvements sont attachés aux Saintes Écritures. Ils ont gagné une multitude de personnes, mais ils sont restés catholiques. Et en réalité, souvent, ils fuyaient certaines cérémonies, les messes, par exemple. Et il, parmi ces prédicateurs, voilà, un des plus éminents, je vais en parler un petit peu, c'est un prêtre qui s'appelait Pierre de Bruys. Et lui, il commença à prêcher, tout en étant dans l'Église catholique, contre la corruption de l'Église romaine. Donc il est resté dans l'Église et il commençait à révéler, à manifester, à montrer les vices du clergé. Il prêchait carrément la repentance, la réforme des mœurs, surtout des prêtres et des moines, et il annonçait l'évangile. Il bravait tous les dangers, vous vous en doutez bien, parce qu'on a parlé des bûchers, etc. Et il exerçait surtout son activité dans le sud de la France, en Dauphiné, en Provence, en Languedoc, ceci pendant 20 ans. Il prêchait, il disait que les lieux sacrés ne sont pas nécessaires aux chrétiens pour prier, que Dieu nous entend, qu'il exauce tous ceux qui en sont dignes. Donc, il disait que ce soit dans une taverne, dans une place publique, une étable, un temple. Et il commença lui-même à mettre en pratique ce qu'il disait. Il prêcha donc l'évangile. Il brûlait des croix qui portaient des images du Christ. Voilà, donc ça a commencé un petit peu à déraper. Et il y a donc une multitude de prêtres catholiques qui s'est senti offusqué et qui arrêta donc ce Pierre de Bruys. Et il finit au bûcher, brûlé vif comme hérétique, à Saint-Gilles-du-Gard en l'an 1126. Donc, je n'ai cité que ce mouvement, mais il y en a beaucoup d'autres. Tous ces mouvements qui sont tous restés au sein du catholicisme, mais qui dénonçaient des choses qu'ils voyaient, qui étaient à l'encontre de l'Évangile, ils produisirent, tous ces mouvements-là, ils produisirent de bonnes choses. Vous voyez, malgré toutes les dérives, ils produisèrent des bonnes choses, ils édifièrent les âmes, ils amenèrent un grand nombre de personnes à Christ. Mais ils n'ont pas osé quitter, franchement, l'Église catholique afin d'offrir des personnes donc interpellées par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Tous ces mouvements, finalement, ils ont eu un impact limité parce qu'ils sont restés dans l'Église catholique. Et donc, ils manquaient de profondeur. Et ils marquèrent beaucoup moins l'histoire que d'autres mouvements dont on va parler après, qui osèrent, eux, franchir le pas, qui osèrent sortir de l'Église catholique. Donc, finalement, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour nous pour réfléchir. Voilà, est-ce que certains ont montré qu'il y avait des choses qui étaient mauvaises dans l'Église catholique, mais qui ne sont pas allées jusqu'au bout. Finalement, ils ont été, pour la plupart, absorbés, récupérés, on peut dire, par l'Église catholique romaine. Et parfois même utilisés pour faire une opposition aux églises bibliques chrétiennes. Donc c'est ça le pire. Donc le fait de rester à l'intérieur du catholicisme ne les protégea pas, parce que certains ont été sauvagement persécutés par les papes, par l'Église catholique de l'époque, et ils ont été privés de bien des bénédictions en restant dans l'Église catholique. Je voudrais, avant la pause, peut-être on a encore du temps, oui. Le mouvement le plus marquant, c'est le mouvement de Pierre Valdo, vers 1170. Lui, il s'est présenté comme étant le fondateur des Vaudois. C'était un riche marchand de Lyon, et il va connaître une conversion radicale, vers 1173. Il est touché, et il décide de tout distribuer aux pauvres, de distribuer tous ses biens aux pauvres, et de vivre dans une simplicité totale. Ce mouvement a été souvent surnommé le retour à la pauvreté évangélique. Et il a surtout apporté la conviction, pour l'époque que la Bible doit être l'autorité suprême pour les chrétiens. Voilà ce que ce mouvement surtout a apporté. Il a critiqué de nombreuses pratiques du clergé médiéval qu'il jugeait non bibliques. Il prônait la prédication de l'évangile par tous les fidèles, pas réservée à certaines catégories comme dans l'Église catholique. Et Pierre Valdo est considéré comme une lumière avant l'aube, une sorte de pré-réformateur avant l'arrivée de Luther, de Calvin et d'autres. Il mettait déjà en avant donc ce qu'on verra après, la sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture seule, mettre l'écriture seule par rapport à la tradition de l'Église. Seule l'écriture compte. Et aussi le sacerdoce universel, l'idée que chaque croyant peut avoir contact avec Dieu, peut entrer directement en contact, prier avec Dieu, sans qu'il y ait un prêtre qui joue le rôle d'intermédiaire. Alors Pierre Valdo, il peut nous servir d'exemple aujourd'hui parce que c'est un homme qui a persévéré face à l'opposition. Il est resté fidèle jusqu'à la fin de sa vie à ses convictions bibliques. Donc ce qu'il nous faut réaliser aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours eu le désir de revenir pour ces mouvements aux sources de l'Évangile. Ça a toujours existé, même dans les périodes les plus sombres. Comme on l'a dit, le Moyen-Âge, c'est une période qui est quand même plutôt globalement sombre, mais on voit que parmi cette période sombre, eh bien, il y a des mouvements qui ont vraiment été magnifiques. On les a surnommés, par exemple, les Pauvres de Lyon, donc ce mouvement de Pierre Valdo, c'était le nom donné à ce mouvement qui avait voué ce vœu de pauvreté. On les surnommera parfois les Vaudois, donc ce mot vient peut-être du terme « Valence », qui voudrait dire « vallée alpestre ». Ça peut venir aussi du canton de Vaud, en Suisse, ou encore, on ne sait pas trop du coup, ou encore peut-être du nom de Pierre Valdo, ce mouvement vaudois. Et les Vaudois, voilà, j'insiste un petit peu plus sur ce mouvement, c'est qu'ils vont traduire la Bible en langue populaire. Ça, c'est un travail énorme. Ils vivent dans la pauvreté, ils prêchent sur les routes, ils sont souvent chassés, massacrés. Et ils trouvent refuge souvent dans des endroits cachés, dans les Alpes, etc. Les Vaudois prêchaient également, c'est important de le dire, la soumission aux autorités civiles. Ils disaient « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et dans leur confession de foi, donc ils le disent « Nous devons honorer le pouvoir séculier par la soumission, l'obéissance, la bonne volonté, payer les redevances ». Vous avez ensuite donc dans votre fond de cours deux photos d'un endroit où les Vaudois se retrouvaient. C'est donc aux confins de l'Italie, au nord de l'Italie, au sud-ouest de Turin. C'est un endroit où j'ai pu aller en famille avec mes quatre petits gars à l'époque, il y a quelques années, et c'est vraiment un endroit perdu. Et quand on sait voilà, ce qui s'est passé dans ce collège, c'était un collège, donc c'est une maison de pierre qui est sur trois niveaux, hein, qui est complètement perdue, pour la trouver c'était très très compliqué, et là on voit que cet endroit-là a formé des équipes apostoliques qui sont parties à travers l'Europe. De cet endroit-là perdu, voilà, ils formaient des ministères qu'on appelait les barbes, c'est-à-dire oncles ou personnes âgées expérimentées. C'était un terme affectueux, de respect. Et de cette église vaudoise, aujourd'hui, il reste encore, hein, elle n'a pas disparu, il en reste encore en Italie, surtout près de Turin, dans le Piémont, dans les vallées alpestres. On a environ 18 églises vaudoises qui existent encore dans la région autour de Turin, mais aussi dans le reste de l'Italie, Milan, Florence, dans les grandes villes. En France, on peut en trouver des églises de ce type à Nice, Marseille, et même aux États-Unis, à New York. Ces églises, elles sont très florissantes aujourd'hui. Oui, elles existent encore aujourd'hui. Et elles prospèrent abondamment, notamment en Argentine, en Uruguay. Les Vaudois furent vraiment un peuple de la Bible, très attaché aux Saintes Écritures. Mais ils s'écartèrent parfois de l'Écriture par rapport au baptême d'eau. Ils pratiquèrent généralement un baptême d'eau par aspersion. Et certains Vaudois baptisaient des nourrissons. tout en reconnaissant que ce baptême ne pouvait pas provoquer une régénération, mais qu'il devait être suivi plus tard d'une vraie conversion. Donc vous voyez, parmi ces mouvements, il y a des choses aussi qui ne sont pas bibliques. Pourtant, toutefois, ces vaudois, ils refusaient d'utiliser la force, eux. Mais quelques-uns, là aussi c'est quelques-uns, fatigués par les persécutions, par toutes les attaques qu'ils subissaient, utilisèrent les armes. Ils prirent quand même les armes, certains, pour défendre leur vie et celle de leur famille. Et les paysans vaudois commencèrent à se défendre par les armes, ce qui laissa un mauvais témoignage. Et fut un prétexte pour de nouvelles persécutions. Je vais continuer, si vous n'êtes pas trop fatigué ou endormi. Ça va, je vous endors pas ? Je vais parler un tout petit peu de l'Inquisition. Alors l'Inquisition, c'est donc quelque chose qui a été créé, une sorte de tribunal qui a été créé par l'Église catholique en 1231 contre les réveils des Vaudois et des Cathares. C'est un prêtre espagnol qui s'appelait Domingo de Guzmán qui a fondé à Toulouse en vue de défendre l'Église romaine contre les hérétiques. Voilà comment aurait été créée l'Inquisition. Au début, donc, ce fameux Domingo de Guzmán pensait qu'il ne fallait utiliser que la prière, la persuasion pacifique, la prédication. Et puis finalement, il a joué le rôle d'inquisiteur. Il a commencé à persécuter les albigeois avec la plus grande cruauté. Il y avait des arrestations secrètes, des tortures pour obtenir des aveux, condamnations au bûcher. Et on voit que le Concile de Toulouse interdit formellement aux laïcs de posséder les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament en langue vulgaire. Donc ils veulent éradiquer les hérétiques que les armes n'ont pas suffi à détruire. Et l'Église met donc en place ce tribunal. Les dominicains vont devenir les principaux juges de ce tribunal. On va encourager la délation. On va ne pas permettre à l'accusé d'être défendu. On va utiliser la torture. C'est même le pape qui met en place par une bulle, donc un texte de loi, qui autorise la torture. Voilà, toutes ces déviations qui vont être mises en place. Et puis, on est dans la période aussi 1492, ça vous dit quelque chose ? C'est aussi la période où des Européens vont se lancer à la conquête de nouveaux territoires, ils ont soif de découvrir de nouvelles richesses, etc. C'est la période des conquistadors. Et je vous ai cité juste deux exemples. Fernando Cortés, c'est un des plus célèbres des conquistadors, donc qui s'est lancé à la conquête du Nouveau Monde. Il était, lui, accompagné d'ecclésiastiques, on peut dire, d'évêques, de moines, de prêtres catholiques. Et cet accompagnement fut le théâtre des pires atrocités. Parce qu'en fait, beaucoup d'Indiens, d'Aztèques, de Mayas, ces civilisations qui existaient donc en Amérique, furent baptisées de force. Et parfois, ils étaient exécutés ensuite pour qu'ils ne retournent pas au culte païen. Donc ils subissaient des traitements brutaux, dégradants. Ils étaient considérés comme des esclaves. Et en particulier dans des mines, les plantations, ils étaient torturés au fer rouge. Voilà, on a des témoignages où l'on voit que les indigènes étaient décimés par les massacres, les mauvais traitements et aussi les maladies apportées par les Européens comme la variole et la grippe. Donc cette population des Amériques qui était, on l'a comptabilisée, aux environs de 37 millions de personnes en l'an 100, est tombé à 13 millions. Vous vous rendez compte ? 13 millions de personnes. L'île de Cuba, par exemple, qui comptait plus de 3 millions d'habitants, voit sa population réduite à 200 personnes. Voilà, c'est une hécatombe terrible. Les colons, les militaires étaient donc accompagnés par des évêques, des moines. Mais après quelques temps, certains évêques, comme Bartolomeo de las Casas, qui est en photo sur le diaporama, Lui, c'est un personnage qui méditait les Saintes Écritures, qui les accompagna, et lui, il s'est vraiment investi, donc il y en a eu quelques-uns qui se sont investis énormément pour défendre la cause des Indiens persécutés et massacrés. Il voyagea beaucoup, il argumenta, il prêcha courageusement, il écrivit, il plaida en faveur de ces peuples auprès des souverains espagnols. Il fut surnommé le père et le protecteur des Indiens. Et puis, donc, dans un de ses écrits, il dit « Il est évident que jamais le Christ n'a permis à personne de contraindre ou de molester qui que ce soit, en particulier les païens qui se refusent à écouter la prédication et à recevoir les prédicateurs. Il est évident qu'il ne faut jamais châtier les païens qui refusent de recevoir l'enseignement de la foi. Si l'on agit autrement, on transgresse le principe divin. » Donc, tous ces massacres des conquistadors qui cachaient des motifs aberrants. C'était donc finalement la suite des croisades, de l'Inquisition et du triste message d'Augustin d'Hippone. Vous vous souvenez, Augustin d'Hippone, un père de l'Église primitive, qui avait dit « Contrains-les d'entrer ! Contrains-les d'entrer !» Voilà, je vais faire une petite pause par rapport à l'Inquisition. Je vais revenir un petit peu en arrière pour nous questionner par rapport à l'Inquisition. L'Inquisition, donc, elle avait pour but d'éliminer les hérétiques. Est-ce que aujourd'hui, il n'existe pas, donc l'Inquisition, c'est le type d'exemples où l'on a utilisé des armes charnelles, la loi, la prison, la peur, pour défendre un royaume spirituel. On a voulu préserver la parole de Dieu en éliminant ceux qui l'interprétaient différemment. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore ce style d'inquisition, c'est-à-dire cette forme où l'on va utiliser des armes charnelles pour amener le royaume de Dieu? Alors dites, exprimez-vous, ce serait quoi par exemple? Où on confond la vérité, le contrôle, on veut éliminer ceux qui pensent différemment de nous. L'intolérance. Donc est-ce que vous avez pu suivre un petit peu le cheminement depuis le début, là, depuis le Moyen-Âge, comment Dieu a gardé un reste toujours au fil de l'histoire? Et que malgré toutes ces déviations des hommes, de l'Église catholique, voilà, Dieu a toujours continué à être fidèle malgré tout ce qui s'est passé dans le monde, en Europe. Et on va voir apparaître des personnes qu'on va appeler les précurseurs de la Réforme. Alors la Réforme, voilà, on parle beaucoup de la Réforme dans notre monde, avec les réseaux sociaux, dans notre assemblée avec Pasteur Joe sur le réveil, le début de la réforme. On va voir à travers l'histoire de l'Église au XVIe et XVIIe siècle que des personnes se sont levées, ont quitté l'Église catholique, là se sont vraiment mises en danger, et on va voir ce que cela a donné, ces mouvements de réforme. Et ces premières personnes, on les a surnommées d'une jolie expression, les étoiles du matin. Donc ce sont des personnes qui, avant Martin Luther, vont préparer le terrain de la réforme. Ils ont joué un rôle capital. Souvent, on n'en parle pas, on ne parle que de Martin Luther, de Calvin, de Théodore de Bèze ou d'autres, mais eux, ils ont joué un rôle capital. Ils ont préparé. Ils ont préparé les mentalités. Et le premier s'appelle John Wycliffe. Son nom s'écrit de trois façons différentes, en Angleterre. Donc lui, il était surnommé l'étoile du matin, et il affirmait que la Bible est la seule autorité, et il a terminé une traduction de la Bible en anglais. Donc on voit la traduction de la Bible qui commence à se développer, et pourquoi? Parce qu'on va voir apparaître l'imprimerie, et l'imprimerie, ça va être le détonateur, ça va être ce qui va permettre de propager l'évangile d'une autre façon. Lui, il était directeur d'un collège, il était professeur à Oxford, recteur d'une église catholique, et il prêchait l'autorité de la Bible. Il rejetait la papauté et toutes les erreurs du catholicisme. Il réussit à traduire la Bible en anglais à partir de la version de la Vulgate. Je sais que vous êtes au point avec la Bible, hein, les différentes versions, avec Alexandre Nano. Ça vous dit quelque chose, la Vulgate, du coup ? Donc c'est une version, on pourrait dire, la Vulgate, qu'est-ce que c'est pour vous ? Oui ? La version en latin, ou alors une traduction latine de la Bible. Et donc les disciples de John Wycliffe, ils étaient surnommés, c'était une expression pour se moquer d'eux, on les surnommait les Lollards. En fait, c'était des gens qui parlaient à voix basse, ils bavardaient, ils chantaient, ils s'exprimaient de cette façon-là, mais ils parcouraient l'Angleterre, ils expliquaient la Bible, ils distribuaient des traités populaires. Ils distribuaient pas la Bible, mais ils distribuaient des traités. Et donc, cet Anglais, il s'attaqua avec force aux doctrines et aux pratiques de l'Église corrompue. Il a été exclu de l'université catholique d'Oxford. Il restera quand même recteur de l'église d'un petit village où il mourut. Il est mort en étant persuadé que l'écriture seule est la vérité. L'autorité absolue de la Bible fut la grande vérité à laquelle Wycliffe rendit témoignage. John Wycliffe fut excommunié, vous avez le terme dans le lexique, c'est, il a été exclu de l'Église catholique, et cinq bulles d'excommunication. Finalement, le concile de Constance en 1415 ordonna, alors qu'il était déjà mort, ordonna que ses restes soient exhumés et brûlés. Vous voyez l'acharnement ? Et la sentence fut exécutée environ 44 ans après sa mort, en 1428, ses cendres furent jetées dans un ruisseau proche. Il avait donc une foi vivante, audacieuse. Il proclamait « La doctrine de l'Évangile ne périra jamais ». Mais la persécution arriva rapidement, et en l'an 1400, pour la première fois en Angleterre, un édit, donc une loi, rendit légal de brûler vif un hérétique. Voilà, les lois qui rentrent par le biais des rois. Les bûchers se multiplièrent, un grand nombre de martyrs souffrit la torture. La lecture de la Bible en Angleterre fut interdite, ainsi que les livres de Wycliffe. Les prisons de Londres regorgèrent de ces partisans qu'on surnommait les Lollards, et les bûchers se multiplièrent. Donc ces assemblées étaient très importantes, et ces croyants, ils restèrent souvent, comme un petit peu en France avec les Vaudois, les Cathares, ils se sont cachés, et certains s'exilèrent, ils quittèrent carrément l'Angleterre pour aller en Amérique par exemple. Et tous ces témoins, notamment donc John Wycliffe, ont préparé le chemin de la réforme. Parce que ces écrits vont commencer à circuler en Europe, et notamment un théologien qui s'appelait Jean Hus a commencé à lire Wycliffe. Et c'est ce qui l'a conduit à prêcher l'Évangile dans sa propre langue. Donc Jean Hus, il a vécu en Bohême. C'était un prédicateur puissant. Il a été brûlé vif en 1415 parce qu'il avait dénoncé la corruption. Et sur le bûcher, on raconte qu'il chantait des psaumes. Il était docteur en théologie, prédicateur. Donc voilà, on voit qu'il y a des personnes lettrées qui savent lire et écrire, qui commencent à réfléchir, comment traduire, comment répandre l'Évangile. Et il était proche des rois et notamment de la reine de Bohême. Et il avait un sauf-conduit de la part de l'empereur, ce qui lui permit de prêcher le salut par la foi, la justification par la foi. Il s'élevait contre les indulgences, les excès du clergé romain. Il s'attaquait directement, donc il n'avait pas peur, il s'attaquait directement dans ses prédications au désordre dans les mœurs de la cour, du roi, du clergé, du peuple. Mais il ne quittera jamais l'Église catholique. Il espérait, en fait, la réformer, la changer. Il ne souhaitait pas créer autre chose. Il souhaitait, pour certains d'entre eux, rester dans l'Église catholique. Il pensait que c'était possible de changer, de réformer l'Église catholique. Mais Jean Hus fut condamné, dégradé, brûlé vif. Et comme les flammes l'entouraient, lui aussi on dit que voilà, ses cendres furent chantées, il chantait pendant que les flammes l'entouraient, et lui aussi, voilà, on jeta ses cendres sans considération dans un fleuve, dans le Rhin qui était à côté. Alors, vous avez d'autres exemples, mais je vais terminer par Jérôme Savonarole. Il y a Jérôme de Prague, et j'aurais pu en citer bien d'autres. À la fin du XVe siècle, on est aussi dans une période qui s'appelle la Renaissance en Europe. C'est vraiment une période de développement culturel, des arts, de l'architecture, de la peinture. Et en Italie, notamment à Florence, alors que les arts, les lettres connaissent un extraordinaire développement, on voit qu'en même temps que ce magnifique développement artistique, il y a une corruption des mœurs qui va avec, et qu'il y a une entrée du paganisme et de l'Antiquité, des pensées de l'Antiquité qui rentrent dans cet endroit-là, et en Italie. Ce Jérôme Savonarole, il est donc né en Italie, à Ferrare, et il passait du temps, étant jeune, le long des berges du fleuve Po, à chanter à Dieu, à pleurer sur ses péchés, sur les injustices, la pauvreté du peuple autour de lui. Il entra dans les ordres catholiques à l'âge de 22 ans, il reçut donc une éducation distinguée, et puis là, il devint l'ami de Michel-Ange. Michel-Ange, je pense que tout le monde voit de qui il s'agit, donc c'était un génie de l'époque, on peut dire, dans tous les domaines. Il fut aussi, donc, Savonarole, le confesseur de Laurent de Médicis, qui régnait sur la ville de Florence, de Pic de la Mirandole, et cette personne espérait vraiment voir un réveil dans sa ville. Il étudia les Saintes Écritures pendant des années. Il s'attendait à Dieu, il priait, et un jour, on raconte, voilà, dans les témoignages de sa vie, que Dieu lui donna une vision. Les cieux s'ouvrirent. Une voix lui ordonna d'annoncer au peuple les futures calamités de l'Église catholique. Loin d'une puissante onction du Saint-Esprit, il commença à prêcher au peuple. Il allait au milieu des places, des grandes places des villes italiennes, et en particulier à Florence. Et il a été un puissant prophète de l'Éternel, très attaché à la parole de Dieu. Il vivait d'extraordinaires révélations, et il était, à cette époque-là, un véritable porte-parole de Dieu pour le peuple. Et on raconte que sa voix était forte, qu'elle tonnait, et qu'il criait presque en dénonçant les péchés du peuple, les péchés des princes, et de l'Église romaine, et il prêchait contre l'esprit de domination de la papauté. Il annonçait que l'Église romaine allait être châtiée, allait être punie, si elle ne se repentait pas. Il le criait sur les places publiques, et un formidable réveil saisit la ville de Florence. On raconte qu'en l'écoutant, des hommes, des femmes, des poètes, des philosophes, des artisans, des ouvriers sanglotaient et pleuraient en l'écoutant. Les gens déambulaient dans les rues, ils étaient saisis par une conviction du Saint-Esprit et ils étaient dans un état de second, ils devenaient muets, ils étaient touchés par l'Esprit de Dieu. On sait que dans ses messages, Savonarole proclamait le salut par la foi en Jésus-Christ, seul et non par des œuvres méritoires. Il réclamait donc le retour à l'Église et à la simplicité apostolique. Le pape de l'époque, qui s'appelait Alexandre VI, de la famille Borgia, et les Médicis, la famille Médicis qui régnait sur la ville de Florence, organisèrent un complot contre lui et provoquèrent une émeute. Savonarole fut surpris, il fut pris, torturé, et les mains liées derrière le dos, il fut élevé à une grande hauteur sur une place publique. Et projeté en bas à plusieurs reprises, disjoignant ses épaules, déchirant ses muscles, alors que des charbons ardents étaient à ses pieds. Et finalement, avec deux de ses compagnons, ils furent, après cela, comme si ce n'était pas suffisant, ils furent pendus sur la place publique et leurs corps furent brûlés. Voilà, donc on voit qu'il y a une forme d'excitation contre ces personnes qui se levaient, Et on sait que Martin Luther, dans sa jeunesse, a été profondément influencé par le ministère et la vie de Savonarole. Et il reste, ce personnage, un des plus grands héros de l'histoire de l'Église et de l'histoire des réveils. Est-ce que j'ai encore du temps ? Oui. Alors je vais terminer avec le Moyen-Âge, avant d'aborder les temps de la Réforme après la pause. Et finalement, en conclusion, sur le Moyen-Âge. Alors bien sûr, le Moyen-Âge, je l'ai abordé rapidement, mais on pourrait terminer par ce constat que on a vu que l'institution, c'est-à-dire le pouvoir politique, est venu s'installer partout, mais que la lumière de l'Évangile n'a jamais totalement été éteinte pendant toute cette période-là. Durant ce Moyen-Âge, les Saintes Écritures sont abondamment copiées, recopiées, traduites, distribuées en France. De nombreuses Bibles complètes ou des extraits fragmentaires vont être diffusés en Languedoc, en Languedoïle, en Normand, en Picard, en Provençal, avec Pierre Valdo, en Bourguignon, voilà, dans toutes les langues de l'époque, en Poitevin, en Lorrain, etc. Et ça témoigne vraiment de la magnifique histoire biblique de la France. Les Cathares et les Vaudois auront eux aussi leur traduction des Écritures. Donc en France, pendant des siècles de l'histoire, la Bible, c'est un endroit, voilà, vous pouvez retenir ça, c'est un endroit, la France, où la Bible a été le plus traduit. Et les précurseurs dont j'ai parlé, comme Wycliffe ou Huss en Bohême, qui ont commencé à critiquer les abus du clergé, qui demandaient vraiment un retour à la Bible, à la pauvreté évangélique, même si ces mouvements ont été éprouvés, réprimés, ils vont préparer le terrain de ce qui deviendra la Réforme. Donc on pourrait terminer cette partie en réfléchissant et en se demandant, finalement, ne pas oser un système non biblique. Le système catholique, par exemple, ça peut limiter l'impact d'un réveil, quand on ne sort pas d'un système qui n'est pas biblique. Donc je nous encourage, en tant que disciples, à être prêts à discerner déjà dans quel mouvement on est, si c'est un mouvement biblique ou pas, là où vous êtes dans vos assemblées, à distinguer, à chercher la vérité, et puis être prêt, si cela coûte, voilà, à s'écarter d'un mouvement qui ne serait pas biblique, à faire un choix radical. C'est sûr que l'invention de l'imprimerie vers 1450, j'en parlerai après, va tout changer. L'invention de l'imprimerie va tout changer. Les idées vont circuler beaucoup plus vite. Les fidèles vont pouvoir lire des petites brochures, des textes sacrés par eux-mêmes, alors que jusque-là, il y avait toujours l'intermédiaire de l'Église catholique, le prêtre qui était chargé de lire. Et donc tous ces mouvements qu'on a vus, les Cathares, les Vaudois, ils étaient persécutés, ils lisaient, ils répercutaient les écrits qu'ils avaient, mais ils étaient limités. Et grâce à l'invention de l'imprimerie, tout cela va vraiment être magnifiquement développé. Mais voilà, nous sommes déjà dans les temps de la Réforme, là. Je déborde déjà un petit peu sur les temps de la Réforme. Je vous ai mis en bas de la page 19. Voilà, et je vais terminer avec la dernière date là, qui est notée en bas de la page 19, parce que je vous ai remis, comme vous avez eu une formation sur la Bible, voilà, la première Bible française entière sous le règne du roi Saint-Louis. Et puis, je termine en revenant sur 1535, paraît la Bible de Pierre Robert Olivetan. C'est la première Bible traduite sur les textes originaux hébreux et grecs, financée par des Vaudois, tiens, intéressant, imprimée à Serrières, près de Neuchâtel, par Pierre de Vingles. La Bible qui est toute la Sainte Écriture. Cette édition a été tirée à 1000 exemplaires seulement à l'époque. Mais c'est déjà formidable. 1000 exemplaires en 1535. Et Olivetan fit noter dans son édition de la Bible, Dieu, lui, il a noté Dieu en tout. Au début de la Bible, en Dieu tout, Dieu en tout. Au début du Nouveau Testament et tout en Dieu à la fin de l'Apocalypse. Voilà, je vais m'arrêter là et je voudrais vous proposer de vous lever et d'échanger simplement avec quelqu'un qui est à côté de vous ou à l'autre bout de la pièce pour que vous puissiez marcher un petit peu avant la pause, d'échanger sur ce que vous avez retenu. Ça peut être un mot ou quelque chose que vous retiendrez, qui vous vient à l'esprit à propos de cette première partie sur le Moyen-Âge. Voilà, n'hésitez pas à vous lever, à échanger avec quelqu'un, quelque chose que vous avez appris. Quelque chose que vous avez appris sur cette première partie.